France Culture.
Bonjour le Book Club, W ou Souvenirs d'enfance. Pourquoi ce livre est aussi important pour moi? C'est parce qu'en fait il grandit en moi et j'ai grandi aussi avec lui. Comme souvent avec les grands textes, on se dit « Ah bon, on a le droit de faire ça, on a le droit d'écrire ça, on a le droit d'aller aussi loin. » Et en fait, ce livre a grandi parce que je l'aimais pour d'autres raisons.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je peux rester des heures à faire des réussites au lieu d'écrire W. Je tente de préciser les mécanismes de cette espèce de blocage, ce qui m'y fascine. Voilà ce que note Georges Perec le 30 mai 1970, rendant compte de l'avancée délicate de son projet. Tout un chapitre du futur W devrait être consacré aux difficultés que j'ai eues à écrire ce récit, note-t-il encore. Il reprend le livre en 1974, notamment grâce à l'analyse suivie auprès de J.B. Pontalis, et en termine la rédaction en 3 mois. L'ouvrage paraît il y a pile 50 ans, alternance de visions fantasmatiques d'une île régie par l'idéal olympique et d'un récit autobiographique percuté par l'assassinat de sa mère à Auschwitz en 1943 et son père mort au front en 1940. L'édition anniversaire proposée par De Noël est enrichie de photographies et facsimilés inédits absolument émouvants conservés à la BNF. Deux invités pour nous en parler aujourd'hui. Et puis il sera question de souvenirs d'enfance aussi dans la chronique Lecture Jeunesse de Mathilde Wagman. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Robert Bobert.
Bonjour.
Vous signez la postface de cette édition anniversaire aux éditions de Noël. Vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste et vous avez été ami avec Georges Perec. C'est une postface en signe de d'hommage à cette amitié, mais aussi d'hommage à la fiction et à ce que peut l'écriture peut-être pour poursuivre cette amitié. On en parlera tout à l'heure. Bonjour Marilyn Heck.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse universitaire. Vous avez participé à la Pléiade, au Cahier de Lerne. Vous aviez consacré votre thèse à l'œuvre de Georges Perec, notamment à la place de son rapport au corps dans l'écriture et dans l'œuvre littéraire. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer ce livre W ou le souvenir d'enfance. Donc pour cette édition anniversaire de Noël, on reviendra sur les documents qui sont portés à notre connaissance, qui sont inédits et qui vraiment enrichissent pour les connaisseurs et pour les non-connaisseurs de ce texte-là, la lecture, la profondeur de champ, aussi le chantier de travail, le chantier d'écriture, les photographies, les notes, le fameux petit carnet noir. On parlera de la spécificité de cette édition. Mais on voulait commencer peut-être par évoquer, pour l'une et pour l'autre, votre découverte de ce texte-là, dont je rappelle qu'il paraît en 1975. Quand est-ce que, et dans quelles conditions, Robert Bobert, découvrez-vous W ou le souvenir d'enfance?
Alors, ce matin, c'est long. Dans le Nouvel Observateur, en 75, je lis... Alors, je me souviens plus du titre de l'article, c'était l'article de Jean Duvigneault, et c'était sur W ou Souvenir d'enfance. Je lis l'article, et il y a tout de suite une phrase qui me frappe, c'est lorsqu'il dit, parlant de ses parents, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. Je me suis dit, ce bouquin, il faut que je le lise. Et j'étais pas un grand lecteur avant. Mais bon, j'ai fait beaucoup de films documentaires sur la lecture, donc j'ai fait quelques progrès de ce côté-là. Et on avait par chance des amis communs. Les Kassovitz, les parents de Mathieu Kassovitz. Et je leur dis, je viens de lire un bouquin formidable, et ils me disent, mais on connaît Perec. Et tout de suite, ils ont fait un dîner. Et moi, je préparais un film qui s'appelle Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise. C'est une sorte de recherche et d'affirmation d'identité. Et donc, ils avaient dit à Perec qui j'étais. Et du coup, ils voulaient... Il voulait parler que de mon projet, et moi j'essayais de lui parler que de son bouquin.
Ça devait être une chouette conversation.
Bon, c'était un bon début. Et puis, les raisons pour lesquelles je suis rentré dans ce livre sont bien antérieures. En 1945, il y a une centaine d'enfants qui s'étaient retrouvés en colonie de vacances. et dont la moitié des enfants qui étaient là, on avait d'abord tous en commun d'avoir été des enfants cachés. Et la moitié, au moins des enfants qui étaient là, n'avaient plus leurs parents. Mes parents avaient été déportés. Et moi, par chance, j'avais mes parents. Et à la fin des vacances, ces enfants sont restés là. Et je les revoyais d'année en année en grandissant, jusqu'au moment où j'ai eu l'âge d'être moniteur. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, ces enfants n'avaient, surtout les plus petits, n'avaient pas le souvenir de leurs parents. Ils n'avaient pas le souvenir d'être à table avec le papa d'un côté et la maman de l'autre. Et enfin, j'espère pouvoir arriver au bout de ça. Et ces enfants qui n'avaient pas... Non seulement ils n'avaient pas le sourire de leurs parents, mais ils n'avaient pas à qui écrire en même temps. Et c'est une période... Enfin, c'est une époque où j'étais encore tailleur. J'ai commencé très tôt le métier de tailleur. Et à la fin de la colonie, quand j'étais... Après avoir été moniteur, j'ai décidé de changer de métier et d'être éducateur. Et il y a cette fameuse... Il y a ce chapitre qui est le dernier paragraphe du chapitre 13 que je ne peux pas lire à voix haute. Mais si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi il m'a tant touché. La première phrase, c'est... Moi, j'aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table de la cuisine après le dîner. Voilà. Et ça a été déterminant pour moi.
Est-ce que vous voulez nous détailler pourquoi, Robert Bobert, il y a quelque chose dans ce que vous comprenez en tant qu'éducateur de ces colonies de vacances avec ces enfants qui avaient été majoritairement des enfants cachés pendant la Seconde Guerre mondiale? D'ailleurs, je trouve intéressant le fait que vous mentionniez leur absence totale de souvenirs de leurs parents avant leur déportation et leur difficulté d'acquisition de l'écriture, et la manière dont vous vous engagez, peut-être dans une autre vie, peut-être dans un autre chemin.
Oui, donc je voulais être éducateur parce que j'avais du mal à quitter ces enfants, je les revoyais d'année en année, et je les ai vus grandir, devenir parents à leur tour, et devenir parents sans se souvenir des leurs, c'est-à-dire ne pas avoir de modèle. Et ce qui fait qu'un des premiers films que j'ai fait, après quand j'étais réalisateur de films documentaires, j'ai fait un film qui s'appelle La génération d'après. J'ai retrouvé 5 femmes dont j'avais été le moniteur, qui étaient devenues mères de famille, et qui n'avaient pas de souvenir, enfin sauf une qui avait le souvenir de ses parents, mais pas les autres, et qui, instinctivement, élevaient leurs enfants comme elles pensaient qu'il fallait le faire, mais elles ne savaient pas si ce qu'elles faisaient, c'était comme ça qu'il fallait le faire.
C'est rare de savoir si on peut absolument bien faire avec ses enfants, de toute façon.
Oui, de toute façon. Mais même si on a mauvais souvenir des enfants, au moins on sait ce qu'il ne faut pas faire. Alors quand il n'y a absolument plus de modèle, c'est la panique.
On reviendra sur cette absence de modèle, puisque l'un des premiers chapitres de W ou le souvenir d'enfance, c'est précisément l'affirmation, qui va être légèrement démentie ensuite par Georges Perec, qu'il n'avait aucun souvenir d'enfance. Oui. C'est presque le point de départ de W ou le souvenir d'enfance. Mais pour rester un instant avec vous, si vous le voulez bien, dans cette période finalement riche mais courte, qui vous unit en amitié avec Georges Perec, Robert Bobert, donc 1975 à la fois la date de la parution de ce livre et votre rencontre avec lui, et 1982, sa mort, vous racontez que quelque chose s'est noué, et on le sent de très déterminant pour vous, qui coïncide avec la parution de ce texte. Est-ce que vous savez exactement aujourd'hui, 50 ans après, puisque c'est l'anniversaire de la parution, ce qui, dans ce texte-là, a été si déterminant pour tous ces pans de votre vie?
Alors, il faudrait que je lise plusieurs extraits, dont celui dont j'ai réussi à lire que la première phrase.
On l'entendra tout à l'heure.
Voilà. Et la relation que j'ai eue avec lui, c'était d'abord une relation d'amitié. Voilà, je ne suis pas du tout... Il y a beaucoup de spécialistes de Pérec qui pourront parler mieux que moi de W. Et moi, c'est plutôt le côté souvenir d'enfance.
Et... Vous faites là référence à cette double construction sur laquelle on va revenir, évidemment.
Oui, oui. Et puis... avec Derek, on parlait de tout, de rien. Et quand je suis parti en Pologne, j'ai retrouvé une femme, c'était Radom, une ville où mon père est né, et où il y avait 30 000 juifs avant la guerre. Et quand j'ai fait ce film, il n'y en avait plus que 5. Il y avait une femme, Madame Kammer, quand j'ai montré la photo de mon grand-père, elle se souvenait de l'avoir connu. Et donc, j'ai tourné ce film. Et sur la table de ma chambre d'hôtel, j'avais mis une dizaine de livres qui étaient là, dont W, ou Souvenirs d'enfance.
Vous le relisez souvent, ce livre-là ?
C'est le livre que je lis le plus souvent, enfin que je relis le plus souvent. Et je le relis, en plus je me souviens de sa voix, donc c'est difficile, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il m'est difficile de le lire à voix haute. Et j'ai fait une projection de ce film avant sa diffusion, ça a été diffusé, donc cette projection c'était en février 76. Et à la fin du film, donc il y a des gens qui sont venus vers moi, qui avaient à peu près les mêmes souvenirs. Et lui est venu vers moi, et il a ouvert la bouche pour parler, et il est tombé dans mes bras en sanglots. Et alors, bien évidemment, j'étais bouleversé. Et il m'a dit, je t'appelle demain. Il m'a appelé, on s'est vu très vite. Il a dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse un jour un film ensemble, je ne sais pas lequel. Mais s'il y en a un de nous deux qui a une idée dans laquelle on peut rentrer tous les deux, voilà, donc... Et
c'était l'horizon d'Ellis Island.
C'était récit d'Ellis Island, mais je ne savais pas encore. Donc on se voyait de temps en temps, il venait manger à la maison, et encore une fois, voilà, on parlait un petit peu de tout, on parlait pas beaucoup de littérature, et c'est pas ce qu'il attendait de moi non plus. Et puis, j'apprends un jour que je ne sais plus comment, qu'Ellis Island est ouvert au public. Et Ellis Island, ça me disait quelque chose, je me disais, il y a quelque chose qui... Et c'était familial. Là, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, c'est pas toi qui m'as parlé d'Ellis Island ? Alors, elle dit, je ne sais pas si je t'en ai parlé, elle dit, mais mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, avait tenté l'aventure en 1903.
C'était le point d'entrée, Ellis Island, voilà. Pour les personnes immigrées aux États-Unis.
Pour tous les immigrants. Et puis, je lui parle de ça. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses ?
À Pérec,
oui. Et Pérec me dit, voilà, il faut que je vois comment je peux rentrer là-dedans. Alors, il m'en a pas parlé, mais je suppose que l'idée de Lille le renvoyait à quelque chose.
Voilà. Peut-être à Lille, dont on va parler aujourd'hui, puisque vous évoquiez, Robert Bobert, cette structure toute particulière de W ou le souvenir d'enfance, où il y a une fiction, on l'entendra, de cette île fantasmagorique née d'ailleurs de son imagination d'enfant ou d'adolescent, et puis une partie plus directement autobiographique, même si évidemment les deux s'entrelacent. Le livre paraît en 1975, il y a pile 50 ans, Marilyn Heck. Robert Bobert disait, il y a des grands spécialistes de l'œuvre de Georges Perec qui peuvent en parler autrement que moi, vous en faites partie. Vous le découvrez quand, ce livre-là ?
Alors effectivement pas à sa sortie où je n'étais pas née, mais moi je l'ai découvert en étant étudiante et je m'apprêtais à faire un mémoire de maîtrise de lettres sur l'autobiographie et donc j'ai appris que Pérec avait écrit une autobiographie et donc comme j'avais aimé les choses, j'ai voulu lire ce livre et là après l'avoir
lu... Les choses qui est donc un précédent, enfin un autre
les
texte.
Les choses, pardon, qui est son premier roman. Et là, après avoir lu ce livre, mon but premier était de travailler sur W et pas sur la question de l'autobiographie, parce que j'ai été totalement bouleversée par ce livre. Et j'ai en commun avec Robert que moi aussi, c'est le livre que j'ai le plus relu de tous les livres qui existent. Donc pour des raisons de recherche, mais je dirais plutôt que j'ai fait exprès de faire des recherches dessus pour pouvoir le relire. Et j'ai été en fait happée par le livre dès sa première phrase que vous avez citée tout à l'heure. Je n'ai pas de souvenir d'enfance, parce que tout de même débuter un récit autobiographique par cette phrase-là, c'est à la fois provocant et bouleversant, parce qu'on se dit mais de quoi alors vont être faits les 250 pages si on nous dit qu'il n'y a pas de souvenir d'enfance à raconter. De quoi va être fait ce récit d'enfance? Et donc, je pense que c'est cette question de la perte qui est au centre du livre, qui m'a beaucoup bouleversée. Et je pense que tout un chacun peut se reconnaître et s'interroger à partir de ce que Pérec raconte, quand bien même on n'a pas vécu des
choses. Quelle que soit son histoire, bien
radicales.
Sûr.
Mais je pense que précisément la force du livre, c'est tient au fait qu'il a vécu cette expérience extrêmement radicale qui est de perdre à la fois ses parents, son lieu de vie, les objets, les documents. Enfin, à cause de la guerre et de la perte précoce de ses parents, il ne lui reste quasiment rien de cette première enfance. Et donc, cette radicalité de l'expérience, je pense, fait une partie de la force du propos du livre. Et quand bien même, donc, on n'a pas soi-même vécu des pertes aussi radicales, je pense que cette question de ce qui nous rattache à notre enfance, il y a aussi cette autre phrase qui ouvre le deuxième chapitre autobiographique qui est « Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance ». Je pense que cette question-là de ce qui nous rattache ou ce qui s'est brisé dans notre rapport à notre enfance, je pense que tout un chacun peut s'y reconnaître.
On parlait de 1975 et de l'article de journal que lit Robert Bobert alors dans le Nouvel Observateur. Est-ce qu'on peut dire un mot de la manière dont il est reçu à l'époque, ce texte-là, et comment est-ce qu'il s'inscrit dans l'histoire littéraire française, Marilyn Hecke, peut-être plus spécifiquement dans une veine qui serait l'écriture de soi, qui vous intéressait, vous, à l'époque, au moment où vous commencez vos recherches universitaires? C'est quoi la place de W ou le souvenir d'enfance dans ce champ-là?
Alors oui, c'est intéressant d'en parler parce que le livre a aujourd'hui une réception qu'il n'avait pas du tout à l'époque. Donc Pérec, quand W est paru, était plutôt dans un creux de la vague, bon, par ailleurs. Il a eu beaucoup de succès avec Les Choses, qui était son premier roman, qui est paru en 1965. Il a eu le prix Renaudot, donc c'était une entrée assez fracassante dans le monde des lettres. Mais par la suite, il y a plutôt eu une décrue de sa renommée. Et donc W s'est inscrit à la fois dans ce moment de creux, puisque la remontée s'est effectuée après, en 1978, avec la parution de La vie mode d'emploi, un autre roman qui a eu le prix Médicis. Donc là, il a retrouvé une renommée importante. Donc il y a ça. Et d'autre part, 1975, c'est une période où en littérature, ça se fait pas trop d'écrire sur soi. Ça paraît bizarre vu d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les écritures de soi au sens large ont un champ qui est inégalé. Mais à l'époque, voilà, on est dans la suite de ces décennies très formalistes des années 50, 60, 70. Ils ont été marqués par le nouveau roman, les néo avant-garde, et la littérature. Et se définit encore, pour reprendre le mot de Ricardou, c'est l'aventure de l'écriture plutôt que l'écriture d'une aventure. Mmh. Et singulièrement, écrire sur soi, c'est pas un projet qui a vraiment le vent en poupe. Hein. On est encore dans les années de la mort de l'auteur, donc cette idée barthésienne selon laquelle étudier un texte à partir de la biographie de l'auteur ou de ses intentions,
c'est mal.
Ce serait pas très intéressant. Et voilà. Et en tout cas, en fait, Pérec sera un des premiers à renouer avec cette idée de l'écriture de soi. Marguerite Yourcenar commence sa grande entreprise autobiographique aussi un peu dans cette période, mais vous voyez quelqu'un comme Nathalie Sarraute qui est plus âgée, en France, ça date des années 80, donc il est vraiment au tout début, et il est justement l'un des initiateurs de ce retour. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut dire rétrospectivement. Mmh. Et donc ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'il n'y a pas eu une réception très remarquable du livre, et il a même été assez mal compris, en fait. Et Pérec en a été peiné, hein, ça on le sait. assez...
Dans cette édition anniversaire de Noël, on a à la fin accès à ses carnets de travail, à la manière dont il bute, dont il coince. Donc c'est difficile pour lui, 1970, mai 1970, juin 1970. Il dit même que d'une certaine manière, ça l'intéresse de réfléchir à ce qui lui fait obstacle. Ça semble insurmontable quand en 1974, il reprend le travail sur W. Il s'attaque à quelque chose qui lui semble pas faisable. C'est intéressant quand même d'avoir accès, évidemment, à tous ces documents de travail, Marilyn Heck, quand on est chercheuse universitaire, mais aussi quand on est simple lectrice ou lecteur.
Oui, tout à fait. Alors, dans les documents qui sont cités, qui sont publiés à la fin du livre, il y en a certains qui sont particulièrement intéressants. Il y a une série de notes sur son père. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que, du coup, dans le livre, il n'a pas mis du tout ce qu'il savait. Alors que, comme on vient de le dire, le principe du livre, c'est quand même de partir d'une absence, d'un manque, d'aveux sans cesse répétés, de lacunes dans la mémoire, de peu d'informations. Et là, en fait, on se rend compte, en lisant les documents à la fin, qu'il savait des choses qu'on lui avait dites sur son père, qu'il n'a pas donc inséré dans le livre, qui avait lui-même aussi toute une élaboration fantasmatique qu'il n'a pas non plus voulu réinscrire. Donc,
c'est intéressant, ça ancre aussi le projet à un endroit littéraire et intellectuel qui n'est pas que la transmission du savoir qu'il a ou n'a pas sur ses parents. Ça veut bien dire qu'il construit au final quelque chose d'autre avec W ou le souvenir d'enfance.
C'est ça, mais ça il le dit aussi un moment, parce que dans un passage qui pour moi est vraiment, je ne sais pas si on le lira tout à l'heure, qui est un passage clé du livre, il dit, il évoque le texte ancien qu'il avait publié, qu'il avait déjà écrit sur son père et qu'il republie au sein de son livre. C'est un texte qui est en gras. Et à la fin de ce texte, il dit, voilà, je sais d'autres choses, mais elles ne me seront d'aucune utilité, d'aucun secours pour dire ce que je voudrais vraiment dire. Donc il le dit en même temps, il le mentionne, le fait qu'il a quelques autres informations qu'il pourrait indiquer.
Mais ça veut bien dire aussi que si le souvenir a une place dans cette écriture, elle ne vient pas totalement combler le manque, le trou, le silence que vous évoquiez, Robert Bobert. C'est-à-dire que finalement, il reste béant, ce trou-là.
Oui, mais en même temps, s'il n'avait pas passé des années autour de W, il n'aurait pas pu écrire. À un moment donné, il y a eu le déclic qui lui a permis, en quelques mois, d'écrire toute la partie souvenirs d'enfance, avec des souvenirs qui ne sont pas toujours des souvenirs importants, mais sur lesquels il voulait absolument revenir, comme s'il se reconstruisait à travers tous ses souvenirs. Et je crois que c'était... C'est ça qui est important. Quand on parlait, de choses et d'autres. Il ne voulait pas que je parle de la Pologne parce que ça le renvoyait. Donc je lui en parlais pas. J'attendais qu'il me pose des questions. J'étais à l'écoute. Et lui aussi était très à l'écoute, parce que quand j'ai... Enfin, c'est pas du tout la question que vous me posiez.
C'est pas grave, allons-y.
Mais quand on a été présenté Ellis Island, on était dans un train pour présenter le film à Bruxelles. Et moi, qui n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre, je me sentais pas du tout légitime pour écrire un bouquin. J'avais pas fait les études pour ça. Je croyais qu'il fallait absolument avoir fait des études pour ça. Et je lui dis, tu sais, j'ai une idée et je vais plus le raconter. Il me dit, tu me la racontes pas. Je lui dis, pourquoi? Il dit, tu l'écris. Alors je lui dis, mais attends, je vais te raconter, tu me diras si c'est bien, si ça t'intéresse, tu l'écris. Il me dit, non, c'est à toi de l'écrire. Et grâce à cette phrase, je suis devenu écrivain. À son insu, parce que j'ai cru que c'était l'ami qui me parlait. Mais c'était l'ami qui avait écouté les textes que j'écrivais pour les films. Alors pour les films, je me sentais protégé par l'image. Et voilà, donc j'ai mis 2 ans avant d'écrire une nouvelle qui fait dans le livre 6 pages, et qui a été le déclenchement. Et depuis, j'ai écrit 7 livres. Donc c'est lui qui avait raison une fois de plus.
Oui, mais d'ailleurs...
Et il ne disait jamais les choses directement, mais d'une façon biaisée, mais par pudeur. Par exemple, le Ellis Island est dédié à la mémoire de Madame Camber. Personne ne sait qui est Madame Camber. Mais Madame Camber, c'est la personne que j'avais interviewée en yiddish dans mon film. Voilà. C'était pour lui une façon de marquer le lien, de dire que Ellis Island est né aussi de ça, de notre rencontre.
Et d'ailleurs, puisque vous parlez de la manière dont il vous a mis si généreusement, littérairement, amicalement sur la piste de l'écriture, on pourra peut-être tout à l'heure dire en quoi est-ce que W ou le souvenir d'enfance est aussi un livre sur ce que c'est qu'écrire pour lui, pour Georges Perec. On continue.
Le temps passé, assis sur les mains, à regarder mon ombre, imaginer ma tombe, examiner les murs, compter les fissures, vérifier les serrures, assis sur les mains, au lieu de te dire que tu es belle. Le temps passé, à regarder mes pieds, à compter les oiseaux tombés, les amis perdus, à choisir un costume, à choisir une plume pour mon œuvre posthume, écrire une homélie au lieu de t'emmener au lit. Le temps perdu à boutonner lundi avec mercredi et tout recommencer au lieu de t'embrasser dans le cou. On a eu chaud, on a eu peur, on a tourné pendant des heures. On a eu chaud, on a eu peur, on est sauvé. Pourquoi on pleure?
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Je ne retrouverai jamais dans mon ressassement même, que l'ultime reflet d'une parole absente à l'écriture, le scandale de leur silence et de mon silence. Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire, j'écris. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leur ombre, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. C'est un extrait de W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, paru en 1975, il y a donc pile 50 ans, et au programme de notre book club aujourd'hui, dans un de ces passages du texte où Perec semble presque réfléchir à voix haute à sa si singulière entreprise à la fois fictionnelle et autobiographique. On continue d'en parler avec vous deux, Marilyn Heck et Robert Bobert, avec sa voix, Georges Perec, 1978, au micro de Jacques Chancel.
J'ai été adopté par la sœur de mon père et j'ai mis longtemps à accepter cette situation, enfin cette d'une certaine manière je sais pas, il fallait que je me construise, disons,
un monde,
ouais. Une maison, enfin quelque chose qui me rattache à ma propre histoire. Il y a eu d'une certaine manière, un combat, je veux dire, qui s'est traduit par un livre, pour moi, très important, qui est à la fois une autobiographie et une fiction, qui est W ou le souvenir d'enfance, qui est l'enquête sur cette existence, sur cette enfance, ces attaches dont j'ai été privé. Et d'une certaine manière, c'est la recherche de ses parents. Le problème, d'une certaine manière, c'était de retrouver la douleur que j'aurais eue, qui m'avait été dérobée, parce que finalement, quand mon père est mort, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Quand ma mère est morte, je ne l'ai pas su. C'était en 43, j'étais dans les Alpes. Mmh. Et il a fallu que, je ne sais pas, que je les enterre.
Thank you.
Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance. Comme tout le monde ou presque, j'ai eu un père et une mère. Un pot, un liquage, un hochet. Et plus tard, une bicyclette que, paraît-il, je n'enfourchais jamais sans pousser des hurlements de terreur à la seule idée qu'on allait vouloir relever ou enlever les deux petites roues adjacentes qui m'assuraient ma stabilité. Comme tout le monde, j'ai tout oublié de mes premières années d'existence. Mon enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne sais pas grand-chose. Elle est derrière moi. Pourtant, elle est le sol sur lequel j'ai grandi, elle m'a appartenu, quelle que soit ma ténacité à affirmer qu'elle ne m'appartient plus. J'ai longtemps cherché à détourner ou à masquer ces évidences, m'enfermant dans le statut inoffensif de l'orphelin, de l'inengendré, du fils de personne. Mais l'enfance n'est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni toison d'or, mais peut-être horizon, point de départ, coordonnées à partir desquelles les axes de ma vie pourront trouver leur sens. Même si je n'ai pour étayer mes souvenirs improbables que le secours de photos jaunies, de témoignages rares et de documents dérisoires, je n'ai pas d'autre choix que d'évoquer ce que trop longtemps j'ai nommé l'irrévocable. Ce qui fut, ce qui m'arrêta, ce qui fut clôturé. Ce qui fut sans doute pour aujourd'hui ne plus être, mais ce qui fut aussi pour que je sois encore. Un des extraits de souvenirs, W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec, extrait que vous évoquiez tout à l'heure, Marilyn Heck, et juste avant la voix de Georges Perec en 1978 dans ce fameux entretien qu'il donne à Jacques Chancel pour Radioscopie. On entend dans cet extrait du texte l'ambivalence qu'il a par rapport à l'enfance, c'est-à-dire à la fois il en dispose, c'est ce qu'il a, et en même temps il n'en sait rien. Et je trouve que dans ce passage-là, comme vous dites, il peut faire une sorte de pas de côté incroyable qui le détacherait du drame spécifique de la perte de son père et de sa mère. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est en mesure de penser l'exil de son enfance presque comme tout un chacun.
C'est un passage très réflexif et aussi très prospectif, parce que là, on est au tout début du livre, et quelque part, quand il dit l'enfance pourrait être les coordonnées
horizon,
à partir desquelles les actes de ma vie pourront trouver leur sens, je crois qu'il faut vraiment entendre le « pourront », c'est que c'est vraiment ce qu'il espère dans l'écriture. Et je ne sais pas si au bout du compte, il y arrive. Je ne sais pas, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, il a cet espoir-là, effectivement, de par la réflexivité, de reprendre prise sur cette histoire qui lui échappe totalement. Et c'est en tout cas une caractéristique du livre d'être comme ça, très réflexif et cérébral, et de donner par contre très très peu de prise au pathos. Parce qu'il n'y a jamais un discours victimaire ou un discours d'apitoiement sur soi-même. Tout à l'heure, vous citiez un passage où il disait le scandale de leur silence et de mon silence. Et dans ce passage que vous avez lu, le terme de scandale, je trouvais, était très frappant, parce que c'est très rare en fait qu'il utilise un terme pareil au sein de ce livre, qui est toujours extrêmement mesuré dans sa manière de parler, où vraiment les émotions, il faut presque les décoder, quoi.
Mais d'ailleurs, il me semble que le scandale de leur silence, il est sous la parole, non ? Il y a quelque chose qui n'est pas complètement à vue, le scandale de leur absence et de leur silence, mais presque dans le texte. On entendait aussi dans l'archive, donc c'est 1978, 3 ans après la parution, donc c'est au moment de la parution de La vie mode d'emploi, il dit qu'il les enterre, ses parents.
Oui, ça peut paraître étrange comme formule, mais bon, ça tient aussi à la spécificité de son histoire, que comme il le rappelle, donc sa mère est morte, déportée, et en fait, on ne sait pas exactement ni où elle est arrivée, quand elle est arrivée, donc elle n'a pas de date de mort réelle. Un décret, il l'explique bien dans le livre, c'est un décret qui lui a donné une date, mais en fait fictive. On ne sait rien de la réalité de cette mort, d'où le fait aussi que Perec ne l'a pas su pendant longtemps, parce que personne ne savait ce qui lui était arrivé. Donc on ne pouvait pas lui dire « ta mère est morte » ou « elle est disparue ». Voilà, c'était extrêmement flou. Donc il y a ce flou qui est au fondement de son histoire, et je pense que c'est...
Il n'y a pas de sépulture pour cette mère.
Elle n'a pas de tombe.
Il y a quelque chose qui officiellement, administrativement, est une mort prononcée.
C'est ça.
Mais d'une certaine manière, elle est très flottante pendant longtemps, y compris dans l'enfance de Georges Perec.
Oui. alors que son père a une tombe dans un cimetière militaire, et il raconte au sein du livre la visite un jour qu'il a faite, un jour unique, hein, il y est allé une seule fois, où il est allé voir donc cette tombe, et il a découvert donc le nom de son père sur cette croix, et il explique dans le livre que c'est un moment important pour lui de voir ce nom inscrit sur la croix, et il dit que ça engendre pour lui une sorte de sérénité secrète, c'est son terme. Donc, comme quoi, il y a quelque chose qui s'apaise peut-être, de pouvoir enfin cerner cette mort. Mais bon, l'idée de cerner la mort, je crois que justement, c'est vraiment au cœur du livre, et spécifiquement la mort de la figure maternelle, qui est figurée de manière assez étrange, puisqu'il y a au beau milieu du livre des petits points de suspension, qui viennent à la place d'un chapitre du récit autobiographique, puisque si vous regardez bien...
Dans l'alternance, voilà, ah oui.
On n'a pas tout à fait mentionné jusqu'ici exactement la composition très spéciale de ce livre, qui donc non seulement offre des chapitres alternés entre récit autobiographique et récit de fiction, mais qui par ailleurs est coupé en deux parties. Et donc entre les deux parties...
Les deux introduites par une citation de Raymond Queneau.
Voilà. Et en fait, si on regarde bien, on a deux chapitres de fiction qui se suivent, ce qui n'est pas donc la règle de l'alternance.
Qui ne respecte pas l'alternance, oui.
Or, entre les deux, il y a juste une page qui présente le signe des trois petits points de suspension mis entre parenthèses, c'est-à-dire le signe qu'on utilise habituellement pour désigner un discours passé sous silence. Donc il y a... en lieu et place d'un chapitre autobiographique manquant, ce tout petit signe qui vient signaler donc le manque. Et le manque, la disparition, juste après qu'il vient d'évoquer la mort de sa mère. Donc assurément, on peut imaginer que c'est ce symbole-là qui vient ancrer quelque chose dans le texte de cette disparition et peut-être justement lui donner une forme.
Justement, dans les peu de choses palpables, tangibles, matérielles dont il dispose, il parle de vieilles photographies jaunies. Est-ce que vous pouvez nous dire la place que tient, et donc pas nécessairement les photographies évidemment qui sont reproduites là, mais la vision des photographies dans l'écriture de W ou le souvenir d'enfance pour Georges Perec?
Oui, alors c'est sûr que les photographies, elles ont un rôle très important, puisque c'est les seuls témoignage qu'il a du visage et du corps de ses parents. Il en a très peu. Et donc, il décrit dans le livre toutes les photos qui sont en sa possession de ses parents, c'est-à-dire une de son père et 3-4 de sa mère. Et donc, ces descriptions sont à chaque fois très longues, très exhaustives. Très minutieuses. On sent bien qu'il essaye un peu de tirer tout ce qu'il peut de ces images qui ont du mal à lui parler parce qu'elles sont relatives à une période qui est si éloignée de lui et à des corps dont il a oublié le souvenir. Donc, il y a quelque chose de tragique, en fait, dans ces longues descriptions parce qu'on dirait qu'il cherche à vraiment...
À les épuiser, presque.
Les épuiser. Ouais. Et alors qu'en fait, elle ne lui parle plus vraiment, quoi. Et d'ailleurs, bon, à cet égard, j'ai trouvé ça, enfin, cette édition donc a cette spécificité de publier les photos en lieu et place, enfin, de l'endroit où Perec les décrit. Donc, on trouve au sein du livre toute une série de photos. Et j'avoue que j'ai trouvé ce choix éditorial assez étrange parce que Perec ne cesse de dire le manque et l'absence. Et du coup, de donner tout d'un coup cette matérialité à ces images...
Transforme le texte, ouais.
Transforme le texte. Bon, par ailleurs, c'est vraiment insérer des images, c'est une intervention sur un texte. Une intervention hors de l'accord de l'auteur. Ça pose en soi une question. Mais là, je trouve qu'il y a presque quelque chose de l'ordre d'un contresens, quoi. Mmh. Par rapport à quelque chose qui est de l'ordre tellement du vide et de l'absence.
Oui, ce qui n'est pas tout à fait pareil que les documents qui sont portés à la fin du texte, où on peut visionner les documents de travail qui sont conservés à la BNF. Là, c'est vrai que la photographie arrive dans le texte, là où précisément elle est tout le temps absente, et normalement en creux, quoi.
Tout à fait.
On va écouter un extrait de W ou le souvenir d'enfance, et être du côté de Lille, peut-être pour parler de cette autre partie, plus fictionnelle, et dire en quoi est-ce qu'elle se tisse avec le récit autobiographique.
Il y aurait là-bas, à l'autre bout du monde, une île. Elle s'appelle W. Elle est orientée d'est en ouest dans sa plus grande longueur. Elle mesure environ 14 km. Sa configuration générale affecte la forme d'un crâne de mouton, dont la mâchoire inférieure aurait été passablement disloquée. Le voyageur égaré, le naufragé volontaire ou malheureux, l'explorateur hardi que la fatalité, l'esprit d'aventure ou la poursuite d'une quelconque chimère aurait jeté au milieu de cette poussière d'île qui longe la pointe disloquée du continent sud-américain, n'aurait qu'une chance misérable d'aborder AW. Aucun point de débarquement naturel ne s'offre en effet sur la côte. Mais des bas-fonds, que des récifs à fleur d'eau rendent extrêmement dangereux, des falaises de basalte abruptes, rectilignes et sans faille, ou encore à l'ouest dans la région, correspondant à l'occiput du Mouton, des marécages pestilentiels. Au début, il ne comprendra pas. Des novices un peu plus anciens que lui essaieront parfois de lui expliquer, de lui raconter ce qui se passe, comment ça se passe, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais le plus souvent, ils n'y arriveront pas. Comment expliquer que ce qu'ils découvrent n'est pas quelque chose d'épouvantable, n'est pas un cauchemar, n'est pas quelque chose dont il va se réveiller brusquement, quelque chose qu'il va chasser de son esprit? Comment expliquer que c'est cela la vie réelle, que c'est cela qu'il y aura tous les jours, que c'est cela qui existe et rien d'autre, qu'il est inutile de croire que quelque chose d'autre existe, de faire semblant de croire à autre chose, que ce n'est même pas la peine d'essayer de déguiser cela, d'essayer de l'affubler, que ce n'est même pas la peine de faire semblant de croire à quelque chose qu'il y aurait derrière cela, ou au-dessous, ou au-dessus. Il y a cela et c'est tout. Il y a les compétitions tous les jours, les victoires ou les défaites. Il faut se battre pour vivre. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'existe aucune alternative. Il n'est pas possible de se boucher les yeux. Il n'est pas possible de refuser. Il n'y a ni recours, ni pitié, ni salut à attendre de personne. Il n'y a même pas à espérer que le temps arrangera cela. Il y a cela. Il y a ce qu'il a vu, et parfois ce sera moins terrible que ce qu'il a vu. Et parfois ce sera beaucoup plus terrible que ce qu'il a vu. Mais où qu'il tourne les yeux, c'est cela qu'il verra et rien d'autre. Et c'est cela seul qui sera vrai.
Un extrait de W, ou le souvenir d'enfance, où on a monté la description de cette première île et puis ce passage où il me semble qu'il tourne comme ça, quasi théoriquement autour de ce mot « cela », Marilyn Heck, qui désigne ce qui se passe sur l'île de W, donc qui est donc la partie fictionnelle de ce livre-là. Mais moi, en l'écoutant, et puisqu'il est mentionné le moment aussi qu'il traverse dans son analyse avec J.B. Pontalis, j'ai aussi l'impression que c'est la description autour de ce là, cela juste qui est là, cela juste qui est là, et presque la manière dont lui-même chemine dans son rapport à son histoire.
Ah, alors ça...
à suivre.
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, cette île W, c'est le point de départ du livre, et en fait, qui a été d'ailleurs formulé dans le cadre d'une psychothérapie, pas celle avec J.B. Pontalis, mais une psychothérapie qu'il a faite très jeune, vers 13-14 ans, avec Françoise Dolto, un autre psy connu.
Pas de moindre figure du XXe siècle, pareil, c'est, quand même, c'est intéressant.
Et donc, il a inventé cette histoire.
Et donc, cette île où il se passe...
Cette île régie par un idéal sportif, mais dont on perçoit petit à petit à la lecture que plus ça va, moins c'est idéal, et plus c'est sordide, et plus ça ressemble à un camp de concentration. Et à la toute fin du livre, l'analogie, elle est posée de manière très claire grâce à une citation dans la partie autobiographique d'un livre de David Rousset qui s'appelle « L'univers concentrationnaire ». Et qui insiste sur ce qui était une réalité, c'est-à-dire la place importante du sport dans l'idéologie nazie.
Mais dans un tout premier temps, s'installe une sorte de, on va dire, d'avancée parallèle entre ce que lui installe, le naufrage, le hasard qui fait qu'on accoste à W, la découverte par l'enfant qui comprend rien au départ, la manière dont les journées se répètent, ce à quoi il va assister dans le passage que vient de lire Jeanne Aléos, le fameux « cela » qui se répète et qui sera la seule chose vraie. Et puis, petit à petit, en effet, on va pouvoir faire le lien entre le totalitarisme qui est décrit... Et la destruction qui est décrite sur cette île W et le drame qui percute à la fois la vie de Pérec et le monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous leviez le doigt, Robert Bobert.
Oui, d'ailleurs, une fois que j'ai levé le doigt, j'ai entendu autre chose sur lequel je vais revenir quelques instants. C'est Françoise Dolto, à mon avis, elle a fait une très grosse bêtise.
Avec Georges Pérec ?
Avec Georges Pérec, oui. Pas seulement avec Georges Pérec, mais enfin bon, là, restons sur Pérec.
Ouais, parce que là, on a pu assez le temps pour ouvrir ce dossier.
Et parce que c'est elle qui a conseillé c'était l'attente de mettre Pérec en pension. Or, Pérec était en train de retrouver une famille. Il avait une tante, il y avait des cousines qui étaient là. Il était le petit frère de Bianca et de Ella Benenfeld. Et on l'enlève de cette famille et on le met dans une collectivité. Avec des enfants qui sont là pour d'autres raisons. Sauf le derrière, dont le père avait été déporté. Et le derrière était devenu son grand copain. Et donc, c'est là pourquoi je dis que Dolto a fait une bêtise. Il retrouve une famille et on l'enlève de cette famille. Voilà. Et à mon avis, ça lui a pas rendu service. Alors la raison pour laquelle j'ai levé la main, c'était les photos. Il ne faut pas oublier que cette édition est née 50 ans après. Donc il est normal qu'on n'ait pas le même regard. Effectivement, si c'est pas contre Pérec, c'est pour aller vers ses souvenirs que ces photos sont là. D'ailleurs, quand on a fait Ellis Island, il y a un album dans le film, on voit un album, on voit ses mains feuilleter l'album, et dans cet album, il y a des photos de famille. Et on est en 79. Et c'est des photos de sa famille. Et puis, et à un moment donné, une fois que ça a été filmé, tout ça, il dit, ces photos, un jour, il faudra les enlever parce qu'il faut que je les rende à ma tante. Mmh. Voilà. Et sur l'album que j'ai chez moi, il y a deux pages blanches avec des traces de colle qui ont déjà jauni. Et j'ai dessiné les personnages au crayon rapidement. J'ai marqué en dessous collection Georges Pérec.
Donc peut-être que c'est pas, à mon avis, ce que disait Marilyn Hex, c'est que c'est pas tout à fait pareil de porter des photographies à la connaissance de lecteurs et de lectrices à la fin d'un texte que de les insérer dans un texte là où précisément elles sont absentes. Mais c'est encore une autre conversation. Je voudrais qu'on donne la parole à Grégory, auditeur du Book Club. Il a lu W ou le souvenir d'enfance. C'est un livre important pour lui. Et il pose une question sur la figure de l'enfant, mais pas tant du côté Pérec enfant que du côté de l'enfant naufragé.
Bonjour le Book Club, bonjour Marilyn Hec, bonjour Robert Bobert. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de ce livre que j'aime énormément. Je me suis aussi interrogé pourquoi ce livre est aussi important pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'en fait, il grandit en moi et j'ai grandi aussi avec lui. Et en fait, ce livre a grandi parce que je l'aimais pour d'autres raisons. Parce que maintenant, ce qui m'intéresse dans W, ayant pris quelques années, ayant pris un peu d'âge, c'est la figure de l'enfant. Cet enfant perdu au début, cet enfant qui traverse l'ouvrage, ça me fascine, ça m'émeut beaucoup de savoir que c'est à partir de cette figure que s'est tissé, que se tissent toutes ces histoires, comme si finalement il y avait un enfant dans le noir qui inventait des histoires pour conjurer des malédictions. Et ça, je trouve ça très 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 beau. Pour finir, une question. Eh bien, pour vous, à votre avis, où il est passé cet enfant du début, cet enfant du naufrage, où est-ce qu'il est maintenant? Je vous remercie.
Merci à vous, Grégory, pour cette lecture émouvante de W ou le souvenir d'enfance de Georges Pérec. Marilyn Hec, il est passé où cet enfant du naufrage qui invente peut-être des histoires dans le noir?
Alors, c'est précisément la question que pose le livre, puisque le personnage de la première partie de la fiction se voit missionné pour aller retrouver cet enfant qui a disparu en mer et qu'on ne retrouvera effectivement jamais. Je pense qu'on peut estimer que cet enfant qui est décrit comme un enfant sourd-muet mais sans traumatisme physique, donc une espèce d'enfant autiste mais dont on ne comprend pas l'origine du mal, il est une sorte de figure fictionnelle de Pérec enfant, enfin une manière de se figurer soi-même comme étant un enfant traumatisé, quoi. Et un enfant que donc dans la fiction on ne retrouve jamais. Et c'est là où on peut voir effectivement l'écho avec le passage de l'autobiographie qui dit « Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance ». L'enfant est perdu comme l'enfant Pérec de la partie autobiographique est perdu.
C'est intéressant quand même que Grégory dit « j'ai évolué dans la lecture que j'ai pu faire de W ou le souvenir d'enfance avec les années » et qu'il y a des choses qui se déplacent dans ma manière de lire le texte. Est-ce que c'est aussi votre cas ?
Oui, je pense que dans le sens où quand je l'ai lu, j'étais vraiment très jeune et du coup, aujourd'hui, je le lis avec tout un bagage littéraire que je n'avais pas auparavant et du coup, je pense que je fais peut-être plus de liens avec d'autres ouvrages. Voilà, il y a cette veine de récit, la place du document, par exemple, le partage entre fiction et autobiographie sont des choses qui peuvent résonner avec d'autres textes, alors qu'à l'époque, je l'ai vraiment lu de manière extrêmement autarcique, quoi. Même si ça reste un livre extrêmement singulier, parce que je crois que dans l'histoire de la littérature, il n'existe aucun autre exemple de livre qui présente un récit alterné entre autobiographie et fiction. Faulkner a fait un roman qui s'appelle Les Palmiers Sauvages.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Il y a deux récits de fiction qui alternent, mais ce sont deux récits de fiction.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on reste du côté de l'enfance, puisque c'est l'heure, cette semaine, comme chaque semaine, de parler littérature jeunesse à ce micro avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un recueil d'histoires qui vous a particulièrement émue.
Eh oui Marie, c'est une série d'histoires courtes, 9 récits qui peuvent se lire pour eux-mêmes comme des nouvelles, mais qui tissent aussi un fil commun. 9 histoires signées Anne Goscinny, qui ont pour titre La petite fille qui ne savait pas dessiner, et viennent de paraître aux éditions Gallimard Jeunesse. 9 histoires dont on devine qu'elles sont nourries de souvenirs d'enfance, 9 histoires rédigées en première personne et qui m'ont émue en effet parfois aux larmes. C'est rare de pleurer en lisant un livre, je me suis donc demandé ce qui, dans celui-là, m'avait tant bouleversée.
Alors qu'est-ce qu'elle raconte ces histoires ?
Voici l'histoire d'une petite fille pas comme les autres, précise l'autrice en préambule. Elle ne sait pas dessiner. La petite fille voudrait grandir vite pour ne plus décevoir les adultes avec ses soleils qui ressemblent à des pommes de terre, ses chiens qui font penser à des renards malades, ses maisons dont on dirait des boîtes. Les récits qui suivent travaillent tous cette émotion que les enfants connaissent si bien et qui consiste à percevoir l'attente qu'un parent a pour soi et se croire incapable d'être à la hauteur. À l'école, chez une amie, pour l'anniversaire de sa mère, on attend d'Anne qu'elle dessine, mais comme elle le répète inlassablement, elle ne sait pas dessiner. Ce qui est beau, c'est qu'on comprend aussi que cette attente, c'est celle que la petite fille imagine qu'on a pour elle, alors qu'en réalité, ses parents se fichent de la qualité de ses dessins. Son père ne cesse d'ailleurs de l'encourager avec une tendresse et une affection qui forment souvent la chute des récits.
Et c'est aussi un livre qui travaille de manière singulière le motif du deuil, Mathilde.
Oui, et la mort arrive souvent sans qu'on l'ait vu venir, un peu comme dans la vie, et ce, dès la troisième histoire. Anne a été invitée à passer son mercredi après-midi chez une amie, alors que d'habitude, elle déjeune le mercredi chez sa grand-mère, la mère de son père, Boubé. Anne ne comprend pas bien pourquoi son emploi du temps a changé. Il y a comme un air de tristesse qui flotte, et la petite fille le devine sans le savoir. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle trouve ses parents assis, chacun sur un fauteuil. « Tu sais, mon petit lapin, commence maman. Boubé est parti, termine papa. » Et Anne de noter « La tristesse de papa m'intimide, aussi je n'ose pas lui demander où Boubé est parti. » Pour le consoler, elle lui donne un dessin, son père la serre dans ses bras et lui dit à voix basse « Tu as été la plus grande joie de ta grand-mère. » L'avant-dernière histoire du recueil s'intitule « L'éternité » et commence ainsi. « Anne, me dit maman très sérieusement, il faut que tu fasses un dessin pour papa. » Moi, je suis très ennuyée, parce que papa est mort depuis 3 jours. Pour papa, mais pour mettre dans la poche du costume qu'il va porter pendant très longtemps. Longtemps, mais combien de temps ? Et sa mère de répondre, après lui avoir caressé le visage, l'éternité. Anne fait, déchire, refait des dizaines de dessins et finit par donner un croquis sur lequel elle a peint un soleil. Alors, le temps d'un sanglot partagé, sa mère la serre dans ses bras. Le dessin que fait Emmanuel Guibert pour l'illustrer, une mère et sa petite fille accroupies au sol qui s'enlacent avec intensité, sont de ces éléments qui bouleversent par la pudeur, la délicatesse et l'économie de mots aussi qui campent tout cela. Il faut dire aussi qu'Emmanuel Guibert a donné au personnage du père les vrais traits du vrai papa d'Anne Goscinny, c'est-à-dire René Goscinny, mort dans la vie en 1977. L'autrice avait 11 ans. À voir comment Guibert le dessine, on devine l'infinie admiration et aussi la tendresse que lui porte le dessinateur et qui circule du texte au dessin, de l'autrice à l'illustrateur et jusqu'à nous. Sur la thématique de la disparition, et j'emploie le mot « disparition » à dessein dans cette émission qui a été consacrée à Georges Perec, il y a enfin cette autre histoire qui s'appelle « Le survivant » et raconte la visite que rendent la petite fille, son père et sa mère, à l'oncle du père, Boris, qui vit à Los Angeles. L'oncle Boris, qui était le frère de Boubé. « Je ne savais pas que Boubé avait un frère », dit la petite fille. « Il en avait même quatre », précise le père tristement. Tandis que les adultes discutent, Anne s'ennuie. L'oncle Boris s'en aperçoit et entraîne la fillette vers une vitrine de laquelle il sort un petit chat en porcelaine, blanc avec les yeux bleus. « Il est comme moi, il est fragile, il vient de loin », précise-t-il, « c'est un survivant ». À la fin de l'histoire, après que les parents ont parlé de guerre, de mort, de chagrin, d'attente, d'espoir et finalement de nuit, Boris donne à Anne le petit chat et raconte « Cet objet vient d'Ukraine, où ta grand-mère et moi nous sommes nés. Il a voyagé avec elle jusqu'à Paris. Quelques jours avant que mes frères ne soient arrêtés par les Allemands, je me suis enfui et va savoir pourquoi, je l'ai emporté. Il me rappelle notre enfance. » Qu'est-ce qu'un auteur adulte met de sa propre enfance dans l'histoire qu'il raconte et qu'il destine aux enfants ? Les émotions qu'il convoque, est-ce que ce sont ces émotions d'adulte qui se souvient avec nostalgie parfois de ses sensations d'enfant ? Ou est-ce que l'auteur arrive à se replonger dans l'émotion qui était la sienne enfant, à la convoquer en quelque sorte pour la retranscrire ? Je crois que les histoires qui m'émeuvent sont celles où je sens ces deux émotions, qu'elles sont présentes à la fois. Celle de l'enfant que l'auteur a été et celle de l'auteur adulte qui s'en ressaisit pour les écrire. C'est dans cette mystérieuse double couche que se loge, je crois, le secret de l'émotion qui nous parvient.
Merci beaucoup Mathilde Wagmann, vraiment en écho avec l'émission du jour. On peut vous réécouter Lecture Jeunesse sur franceculture.fr. À la fin du book club, désolé Robert Bobert, je dois dire qu'on joue à un jeu qui s'appelle les pages musicales et on propose à nos auditeurs et auditrices de nous envoyer des extraits des livres qu'ils sont en train de lire ou qu'ils ont lu ou qui, elles, ont lu et où ils trouvent des évocations d'airs musicaux. C'est Laure Anne de Nantes qui nous envoyait un extrait de « Je me souviens » de Georges Perec. On se quitte donc avec cet extrait-là. Je me souviens que la ville d'Alger s'étend entre la pointe Pescade et le cap Matifou. 37. Je me souviens qu'à la fin de la guerre, mon cousin Henri et moi marquions l'avancée des armées alliées avec des petits drapeaux portant le nom des généraux commandants des armées ou des corps d'armée. J'ai oublié le nom de presque tous ces généraux, Bradley, Patton, Joukov. Mais je me souviens du nom du général de l'Armina. 38. Je me souviens que Michel Legrand fit ses débuts sous le nom de Big Mike. 39. Je me souviens qu'un coureur de 400 mètres fut surpris en train de voler dans les vestiaires d'un stade et que pour éviter la prison, il fut obligé de s'engager en Indochine. 40. Je me souviens du jour où le Japon capitula. 41. Je me souviens d'un morceau d'Earl Bostic qui s'appelait Flamingo. Merci beaucoup Robert Bobert d'être venu évoquer avec nous W ou le souvenir d'enfance. Vous avez gentiment déposé sur la table du studio en arrivant un petit livre bleu qui s'appelle « De la rue Villain à Ellis Island » paru à la bibliothèque Oulipienne. Merci infiniment. Merci à vous Marilyn Heck d'être venue parler de W ou le souvenir d'enfance. On mettra des références de vos propres livres sur Georges Perec sur la page de franceculture.fr. Le book club au son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du book club, particulièrement aujourd'hui à Jeanne Aléos pour continuer la conversation autour de W et du reste. Rendez-vous sur le compte Instagram du book club ou via notre mail leboookclub@radiofrance.com.